Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ils sont beaux, ils sont jeunes et ce soir, après de 22h, ils sortent de la messe ici. Incroyable mais vrai. Aujourd'hui encore, comme il y a 2000 ans, des jeunes croient que Jésus est ressuscité, qu'on peut le rencontrer, l'aimer et le servir. Rencontre ce soir à la cathédrale Saint-Étienne avec la paroisse XXL de Toulouse, la paroisse étudiante. Voilà, cette émission Vivante Église, non pas ce matin, mais hier soir, en direct de la cathédrale Saint-Étienne, ou presque, puisqu'on est dans une petite chapelle attenante, qui est la chapelle de l'agonie, m'a dit Monseigneur en préparant l'émission, espérant que ce n'est pas un mauvais présage. Et autour du plateau, il y a du monde, il y a Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, l'abbé Arnaud Franck, qui est le curé de la paroisse étudiante de Toulouse, et un certain nombre d'étudiants qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de ce plateau, Eloge N. Goyer, Baptiste Michon, Léa Bernard, Paul Femme Van, Clotilde Marijon et Paul Roland Gosselin. J'espère que j'ai pas écorché tous vos noms et vos prénoms. Monseigneur, on va commencer avec vous. Quand vous êtes arrivé vers la chapelle de l'agonie, pourtant vous aviez l'air très content. Vous m'avez dit que c'est beau, que c'est beau. Qu'est-ce qui vous réjouit tant dans ces messes de clôture?
Je suis particulièrement heureux, joyeux et requinqué. Requinqué à la fin d'une longue journée, puisque nous avions aujourd'hui une journée et des 19 évêques qui sont protecteurs de la catholique de Toulouse, une réunion annuelle que nous avons d'habitude, et donc c'est une grosse journée de travail et d'écoute, etc., et de réflexion entre nous. Et donc deux de ces évêques sont restés avec nous pour cette célébration, et l'évêque de Rodez, François Fonlu, ainsi que l'évêque de Cahors, Laurent Camiade, que j'ai eu la joie d'ordonner évêque tous les deux dans leur cathédrale. Et donc c'était particulièrement d'être avec eux, et Monseigneur Laurent Camiade a fait l'homélie.
Qu'est-ce qui vous requinque? C'est de quoi? De voir des jeunes qui...
En général, l'Eucharistie me requinque. Ah. Même quand il y a deux messes par jour, la deuxième me repose de la première et en attente de la suivante dès qu'il sera possible. Mais vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, c'est vrai, les messes me reposent. Mais là, ce soir, en rentrant dans la cathédrale, j'ai senti ma fatigue de la journée, ma fatigue normale de la journée, partir comme par enchantement, et notamment avec la qualité de la musique. J'avais dit au père Arnaud déjà l'an dernier que je trouvais parfois les chants de la paroisse étudiante un peu répétitifs. Pourtant, je ne suis pas tout le temps là, mais je me dis, chaque fois que je viens, c'est pratiquement les mêmes chants.
Et là, ça a changé.
Vraiment, parce que vraiment, je ne connaissais aucun de ces chants, bon. Même pas celui de...
Donc vous allez le garder, le père Arnaud Franck, il est maintenu, il est toujours curé de la paroisse étudiante. Suis,
non seulement les chants qui m'ont bercé, donc nourri, réjoui, etc., mais nous pouvions parler tout à l'heure, vous parliez de couleurs, je vois les t-shirts, les polos de des fraternités qui sont ici. Je vois Eloge qui a une belle couleur de visage parmi nous. Et je vois une autre veste ici, ceux qui nous entourent avec d'autres couleurs variées. Mais la couleur des religieux et religieuses qui sont là, il y a les carmes, vous avez les séminaristes en blanc.
Alors on va
des tas de couleurs.
On va présenter un peu
la variété de l'Église, sa jeunesse et son entrain.
Voilà, alors ma question plus précise, je vous la pose de manière un peu plus insistante. Quand on sait qu'on a des auditeurs en fait qui cheminent vers Dieu, et on ne peut pas dire que ça fasse la une des médias, des jeunes qui à 22h suivent la messe. Est-ce que c'est toujours pour vous une surprise que des gens, des jeunes comme ça cheminent, cherchent le Christ, les rencontrer, le cherchent à tâtons? Est-ce que votre cœur de père évêque est toujours un peu émerveillé de ça?
Ah ben c'est sûr de voir ces jeunes qui frappent à la porte de l'église. Tout à l'heure, le père Arnaud disait à la fin de la messe que quasiment chaque semaine, donc un jeune frappe à la porte du presbytère de la paroisse étudiante à Saint-Pierre-des-Chartreux et donc pour solliciter le baptême. Et c'est quand même magnifique. Et voir un ensemble de jeunes de très variés comme ils le sont, par leurs études, leur milieu, leur origine, etc., ne formant qu'un seul, une seule assemblée chantante, réjouie et réjouissante. Et c'est ça, dans mon cœur d'évêque, comme vous dites, c'est extrêmement précieux. Et d'autant que quand j'étais devenu archevêque de Toulouse, et à 11 ans, la première mission m'avait donné le Saint-Siège, c'était la paroisse étudiante. Pas la paroisse, la s'appelait pas comme ça ainsi, m'a dit il faut faire quelque chose pour la pastorale des étudiants à Toulouse, qui est la deuxième ville de France et qui reste la deuxième ville de France.
120 000 étudiants, dit-on.
120 000 étudiants. Et de voir ça, on a commencé la première année, et c'était donc à la Dorade. À Dorade, à la messe de rentrée, et il y avait la première partie de la Dorade qui était remplie. À peine.
Et là, la cathédrale était pleine.
Et là, la cathédrale était quand même, on peut dire, extrêmement bien fournie.
Alors, on va reparler un peu de l'historique de cette paroisse, mais par nos fonds.
Non, c'est une joie. Une action de grâce, une Eucharistie. Non, je n'ai vécu cette Eucharistie dans la bonne humeur, dans la joie, dans l'entrain et dans l'enthousiasme même, on peut dire ça.
Père Arnaud Franck, même question. Je ne sais pas, votre état d'esprit de sortir de cette messe, et puis peut-être vous, les étudiants chrétiens ou enfin, catholiques, vous en voyez tous les jours, mais on imagine que ça reste toujours quand même une aventure ou une surprise. Et parlez-nous un peu de ces jeunes qui viennent toquer à la porte encore.
Oui, c'est toujours une merveille d'accueillir tous ces jeunes qui cherchent et qui ont soif d'autre chose. C'est depuis le début la devise de la pastorale, et je peux en être le témoin chaque jour, notamment à travers les catéchumènes qui ont un peu le même profil, venant de familles qui sont plutôt anticléricales, d'autres venant de différentes religions, et qui, à cause d'épreuves, à cause de grandes questions qui se posent, ont un jour rencontré des chrétiens, sont rentrés dans une église, ont ouvert l'évangile. Et ce qui me touchait beaucoup, c'est qu'ils ressentaient en eux une paix qu'ils ne pouvaient pas partir. Et ils venaient un petit peu à la paroisse pour dire, mais comment faire pour l'approfondir, pour découvrir davantage.
Et souvent, ils découvrent comment, en fait? C'est quoi? C'est à la faveur d'une lecture, à la faveur d'une... Ils poussent la porte d'une église ou...
Oui, les histoires sont très variées. C'est un qui a... eu la mort d'un ami, un autre tout simplement l'a invité à la messe de la paroisse étudiante, et puis au fur et à mesure a été touché par une parole d'évangile. Moi je suis vraiment en fait étonné et en même temps aussi réjoui de voir que dans le cœur de l'homme il y a vraiment une soif de Dieu, il y a vraiment un désir de Dieu.
Monseigneur, vous nous avez dit que quand vous avez été nommé archevêque de Toulouse, il y a de cela maintenant combien de temps exactement? Je n'ai pas ça dans mes fiches. Combien de temps avez-vous été nommé archevêque de Toulouse?
Quand j'ai été nommé archevêque de Toulouse, c'était le 11 juillet 2006, la fête de Saint-Benoît.
Donc il y a 11 ans, enfin
il y a 11 ans. Il y a eu 11 ans.
Vous avez eu comme mission donc de faire quelque chose pour les étudiants.
La première mission que m'a donnée.
Qu'est-ce qu'il y avait et pourquoi est-ce que vous avez créé une paroisse étudiante? Parce qu'une paroisse étudiante semble-t-il quelque chose d'assez exceptionnel.
C'est assez précis parce que j'étais installé à la cathédrale, ici dans cette cathédrale, le dimanche 10 septembre 2006. Deux, trois jours avant, il y avait eu à Grenoble, je crois, une réunion de l'aumônerie étudiante de France et qui avait cessé son activité à la demande des évêques. Moi, j'avais entendu parler ça à l'Assemblée des évêques quelques mois avant, mais j'étais évêque de Mende, le plus petit diocèse de France à l'époque. Ça ne me concernait pas du tout. Hein, alors donc, quand je suis arrivé là, deux jours avant, l'aumônerie étudiante qui avait une manière de se positionner qui ne satisfaisait pas les évêques a donc cessé d'exister. Ça n'a pas été facile puisque à Bordeaux comme à Toulouse, il y a eu des réactions assez fortes. Négative. Dans la première année où j'arrivais en 10 septembre, donc début de l'année pastorale, rien à entreprendre à ce moment-là, les choses sont déjà lancées. Donc on a eu première année difficile où il a fallu essuyer les plâtres, voir un peu les choses de manière précise, où j'ai été bien aidé à ce moment-là par quelqu'un qui avait été nommé par mon prédécesseur aumônier des étudiants. Alors, qui était le père Xavier Darode.
Pourquoi une paroisse étudiante? Et peut-être pouvez-vous dire la particularité, c'est qu'en général, les paroisses ne sont pas des paroisses non territoriales, sauf cas particuliers, comme des paroisses françaises à l'étranger. Quelle idée y a-t-il derrière cela?
En effet, c'est assez original, puisque il n'y en a pas tant que ça en France. Je crois que nous sommes, vous l'avez vu, je regarde le père Arnaud, et qui participe à des réunions nationales régulièrement, et nous sommes un petit peu, je veux dire, un peu pilote, un peu...
Oui, c'est assez audacieux, parce que aujourd'hui, d'autres diocèses se rapprochent un petit peu de ce modèle que le diocèse de Toulouse a eu l'audace de choisir. Mais à Toulouse, il y a vraiment eu la création d'une paroisse avec, je crois, le désir d'offrir un lieu de communion. Parce que à Toulouse, il y a une véritable richesse de propositions des étudiants, mais il n'y avait pas tellement un lieu où tout le monde pouvait avoir sa place et surtout connaître l'autre et vivre la vie de communauté. Et donc c'est assez audacieux, mais en même temps ça permet à des étudiants qui viennent de débarquer sur Toulouse pendant 2-3 ans de découvrir ce qu'est la réalité paroissiale autour de l'Eucharistie, autour de l'écoute de la parole de Dieu et de la charité. Et ensuite, lorsqu'ils partent, on ne veut pas les retenir à la paroisse étudiante, mais lorsqu'ils partent, notre souhait à nous, c'est qu'ils puissent découvrir et s'engager auprès des communautés locales où ils seront comme jeunes pros, parce qu'ils font vraiment la découverte ici, et les jeunes témoigneront tout à l'heure, d'une véritable fraternité. Moi, je suis beaucoup touché par un texte du pape François dans La Joie de l'Évangile, c'est le numéro 28, qui parle de la paroisse. Et on dirait presque qu'il a contemplé le mystère de la paroisse étudiante de Toulouse.
Que dit-il ?
Pour dire que la paroisse a une plasticité, une souplesse qu'il faut toujours avoir, et que ça soit toujours au cœur l'Eucharistie, que la paroisse soit un lieu de participation, de communion. Les responsables de la paroisse étudiante, ce sont les étudiants eux-mêmes, et nous comme aumôniers, nous sommes là pour discerner et pour les aider à marcher sur ce chemin.
C'est vrai que la spécificité de cela, comme l'explique le père Arnaud, j'ai voulu, comme vous l'avez bien compris, j'ai voulu que ce soit visible. Parce qu'en arrivant ici, il y avait des activités étudiantes réelles, intéressantes. Il y avait, je me rappelle en particulier, Toulouse 2000, quelque chose comme ça. Mais c'était assez ponctuel, d'une part, dans l'année, ce n'était pas tout le temps. Tandis que là, il y a un lieu repérable où il y a des activités de manière continuelle.
Une fontaine de village pour les étudiants de Toulouse, comme c'est l'image c'est que ça, prend souvent le pape François aussi.
Vraiment. Et là, c'est parti après un an de difficile, d'essuyage de plâtre, comme je vous le disais, c'est parti un petit peu en flèche.
Alors, père Arnaud Franck, vous avez été nommé il n'y a pas très longtemps à la tête de cette paroisse, vous avez succédé au père Simon d'Artigues. Voilà, quand je suis arrivé à Toulouse, c'était la légende Simon d'Artigues, on avait même entendu parler. Peut-être deviendrez-vous une légende aussi. Non, je plaisante. Est-ce qu'on imagine qu'à chaque personnalité, il y a un peu sa patte aussi? Quelle est votre vision peut-être pour la paroisse étudiante pour les années à venir, ou quelle serait votre patte ou votre...
Ça, c'est les étudiants de le dire, même si je ne pense pas qu'ils doivent commenter cela. Mais je pense que, comme je le disais, le numéro 28, pour moi, c'est quelque chose que je médite souvent, parce que je suis en lien avec mes confrères prêtres. La paroisse étudiante n'est pas un îlot comme ça, détaché de toute la réalité, parce que on ne veut pas leur mentir aux jeunes. La réalité, elle est hyper dure, en fait. Nos paroisses, elles sont souvent molles, comme disait Mgr Camiade dans l'homélie. Et pourtant, le pape François insiste, on ne pourra pas changer la paroisse. La paroisse, c'est le lieu où les hommes et les femmes habitent aujourd'hui. Ce sont les lieux de la famille. La paroisse, finalement, c'est le lieu, peut-être le seul lieu dans l'Église, où toutes les personnes peuvent se rencontrer. Sans se choisir.
Toutes les générations, parfois toutes les classes sociales aussi.
Oui, et puis des étudiants qui viennent de l'étranger, des étudiants qui découvrent la foi alors qu'il y en a d'autres qui sont tombés dans le bénitier tout petit. Pour moi, c'est en tout cas une grande source d'inspiration dans la dynamique du pape François, de la joie de l'Évangile, de pouvoir créer, de pouvoir leur permettre d'être protagonistes et qu'ils puissent puiser surtout la parole de Dieu. Je me rends compte que il n'y en a pas beaucoup qui connaissent vraiment la parole de Dieu, et ils ont une image de Dieu qui, après bien des épreuves dans leur vie, est bousculée, et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent découvrir le véritable visage de Dieu. Comme disait Zandel,
Maurice Zandel, mystique et prêtre suisse,
le Dieu n'est pas le bouche-trou de toutes nos ignorances et de toutes nos impuissances. Et parfois, c'est bouleversant pour les jeunes, mais ils découvrent le visage du Père que nous révèle Jésus, et notamment dans l'Eucharistie.
Alors, Monseigneur Legal, avant qu'on fasse une première pause et puis que vous nous quittiez, parce qu'on imagine que ce soir, vous êtes forcément beaucoup bien pris, comme le père Arnaud Franck, je voulais quand même dire un mot du prochain synode, puisqu'il y a un synode pour les jeunes qui se prépare, qui aura lieu en novembre 2018.
Octobre
2018, pardon, à Rome, c'est bien ça,
oui.
Par contre.
Oui.
Je me suis plongé rapidement dans la lettre qu'a adressée le pape aux jeunes, et comme à son habitude...
Très personnel.
Comme à son habitude, il exhorte les jeunes. Je citerai juste deux passages que je vous demanderai de commenter. Quelle est pour nous aujourd'hui cette nouvelle terre, si ce n'est une société plus juste et fraternelle que vous désirez profondément et que vous voulez construire jusqu'aux périphéries du monde ? Et le pape rappelle qu'à Cracovie, lors des dernières journées mondiales de la jeunesse, il leur a lancé une question. Peut-on changer les choses ? Peut-on changer le monde ? Et tous les jeunes se sont mis, semble-t-il, à crier « oui ». Est-ce que c'est ce que vous retenez de cette intention de la lettre du pape François aux jeunes à l'occasion de ce prochain synode ?
J'étais frappé par le ton extrêmement personnel par lequel il parle, mais c'est bien sa grâce en effet. Dans des JMJ de Cracovie, il a eu des paroles extrêmement fortes dont on se souvient encore, mais je me souviens aussi de celle de Rio où il avait dit aux jeunes « Mettez la pagaille de manière à ce que les choses puissent changer, puissent devenir autres. »
C'est-à-dire que vous êtes prêt à accueillir la pagaille sur votre diocèse, alors ?
D'une certaine manière, oui, absolument. Et de même aussi qu'il a dit à Cracovie, « Pensionati ». Vous êtes des pensionnés, des gens qui sont en pension. Ne soyez pas des jeunes déjà pensionnés, retraités. « Pensionati », il a dit ça très fortement à plusieurs reprises. Donc des vieux avant l'âge. Donc, mettez la pagaille, surtout ne soyez pas des vieux avant l'âge.
Très bien.
Des retraités avant de commencer votre vie.
Eh bien, le message est lancé. Attendez-vous au meilleur et au pire, Monseigneur, cette année.
Tout à fait, mais que ça commence ce soir, c'était un petit peu ça. C'était pas la pagaille parce que c'était harmonieux, mais en même temps, ça grouille. Et cette année, pendant l'été, je suis allé en Inde pour un chapitre général de religieuses de Toulouse, que la plupart sont indiennes, mais ça grouille dans les rues de Bangalore ou de Pondichéry, ça grouille. Et il y a de la vie, c'est un peu désordre par certains côtés, mais c'est vivant et joyeux.
Et ben voilà.
La pastorale étudiante, c'est ça. Moins les épices, ça dépend des moments d'ailleurs.
Les épices, vous n'êtes pas contre. On va faire une première pause musicale. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci, Père Arnaud Franck, d'être
avec
venu.
Joie.
On retrouve un certain nombre d'étudiants après cette première pause musicale pour cette émission.
Je
vous rappelle en direct de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse à l'occasion de la messe de rentrée des étudiants.
Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Moi qui grandis tous les jours, je suis là et j'attends. J'attends que le jour se lève de réaliser le rêve aujourd'hui et maintenant de n'être plus un enfant. Je patiente doucement que l'on veuille seulement m'accorder une seconde, un petit morceau de monde. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Toi qui grandis tous les jours, tu te dis c'est pour quand? Comment mesurer l'écart entre toi et les grands? Car sur les doigts d'une main seulement, tu peux compter les printemps. On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure, mais tu vois le temps que ça prend, une heure assise sur un banc. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Moi qui grandis tous les jours, je suis là et pourtant. Si je voyageais dans le temps, j'irais voir mes grands-parents quand ils mesuraient trois pommes, qu'ils n'étaient que petits d'hommes. J'aimerais tant pouvoir me faire une enfance buissonnière. Est-ce que demain, c'est dimanche? J'attends les mains sur les hanches. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Je ne grandis plus tous les jours depuis quelque temps. Quand je croise un copain de classe, je me dis c'est un vieux qui passe. Et parfois je m'extasie sur la grandeur des petits. On laisse filer les calendes, il arrive qu'on se demande: est-ce qu'un jour j'ai été grand quand on a les cheveux blancs? Les deux
dans cette étrange affaire, d'un bout à l'autre de l'existence. Si le temps passé reste éphémère, le temps qui s'écoule est immense. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand on sera grand? On répète ça tous les jours depuis la nuit des temps.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église, donc non pas ce matin, mais hier soir à la cathédrale Saint-Étienne, depuis une chapelle latérale de la cathédrale, la chapelle de l'Agonie, à l'occasion donc de la messe de rentrée des étudiants, messe de clôture du Festival Open Church, qui est le grand festival de la paroisse étudiante de Toulouse, pour non pas les 120 000 étudiants de Toulouse, bien qu'ils soient tous invités, mais en tout cas, peut-être quoi, le bon millier, c'est ça, 1000 ou 2000 au moins.
Au moins 2000 environ.
Voilà. Et autour du plateau, donc au début de l'émission, nous avions Monseigneur Robert Legal, archevêque de Toulouse, l'abbé Arnaud Franck, curé de cette paroisse, ils nous ont rejoints. Donc je vais essayer de ne pas écorcher vos noms et prénoms. Eloge N. Goyer, Baptiste Michon et Léa Bernard, c'est ça?
Oui.
Voilà. Alors, avant qu'on rentre un petit peu dans vos responsabilités ou vos chemins à chacun, je voulais quand même vous poser 2-3 questions introductives. Je disais en introduction, ils sont beaux, ils sont jeunes et ils sortent de la messe à 22h. C'est vrai que quand on regarde à l'échelle de la population française, on ne peut pas dire que les jeunes catholiques pratiquants soient légion. J'aimerais qu'on commence par ça. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là ce soir? Et est-ce que tout simplement c'est parce que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents étaient chrétiens et du coup vous avez suivi le mouvement jusqu'à arriver là ce soir? Ou est-ce que pour vous ça a du sens? Et si oui, lequel? On va commencer avec vous, Baptiste Michon.
Donc c'est sûr que la foi, c'est d'abord une remise en question perpétuelle. C'est-à-dire que quand on sort du cocon familial, ça peut être très compliqué au début de continuer à aller à la messe, continuer à fréquenter des cathos, continuer à croire. Et je trouve que c'est tout l'avantage de la paroisse étudiante de Toulouse qui nous aide sur ce chemin-là, qui nous aide à progresser, à ne pas rester sur nos acquis, mais vraiment toujours se dépasser, à prendre de nouveaux engagements, à aller voir d'autres personnes.
Est-ce que vous avez l'impression d'être un extraterrestre à votre génération en venant comme ça à une messe le soir, ou est-ce que c'est un peu exagéré de dire ça?
Ah oui, c'est sûr. Quand tout à l'heure, à la sortie de la fac, des copains me proposent d'aller prendre des bières, je leur dis non, je vais à la messe, vous voulez venir avec moi, c'est sûr qu'on passe pour un extraterrestre.
Et ils vous ont suivi ou pas, non?
Une m'a suivi, je ne sais pas si elle est encore là, peut-être qu'elle est partie en courant, je verrai ça demain matin.
Alors, même question Léa Bernard, qu'est-ce que vous répondriez? Est-ce que vous êtes là parce que c'est une, comment dire, vous suivez le mouvement d'une certaine manière, ou est-ce qu'il y a une raison plus personnelle? Et si oui, quelle serait-elle cette raison personnelle?
Alors, moi, contrairement à pas mal de cathos ici dans l'église présente, je ne viens pas du tout d'une famille catholique, bien au contraire. Donc, moi, j'ai été baptisée à l'âge adulte. Et,
vous avez été baptisée à quel âge?
J'ai été baptisée à 19 ans. Et du coup, je viens, en effet, ça a du sens pour moi ici de venir le soir. Et comme mon ami, on passe souvent pour un extraterrestre quand on dit à la sortie des cours, non, ce soir, je ne peux pas, je vais à la messe. Et on nous demande souvent pourquoi. Et ce que je peux répondre, c'est que pour nous, ça a du sens de commencer l'année avec une super messe en clôture d'un festival, surtout, et de sentir entouré d'autres étudiants, justement, qui, comme nous, après les cours, vont à la messe.
Qu'est-ce que vous diriez peut-être de votre chemin? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être baptisé à l'âge adulte?
J'ai choisi d'être baptisé à l'âge adulte en commençant tout d'abord un parcours de catéchuménat, donc à la paroisse étudiante, pour environ un an et demi. Et c'est le début d'un chemin, en fait. C'est après quelques années de questionnement, on se demande où est sa place. Justement, c'était le thème de ce festival, où trouve ta place.
C'est-à-dire quelques années de questionnement, quoi, de questionnement existentiel.
Questionnement existentiel, oui, qui ont commencé à l'adolescence.
Quel genre de questions, vous vous souvenez, ou...
Quel est le sens de la vie? Je pense que tout le monde se pose cette question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ou qu'est-ce que je fais sur Terre? Est-ce que j'ai une utilité sur Terre? Est-ce que je dois m'orienter vers un métier, quelque chose? Je pense que tout adolescent a ces questionnements-là, un jour ou un autre. Et pour ma part, ça a commencé à l'adolescence. Et malheureusement, le dialogue... j'avais pas d'entourage catholique du tout. Du coup, le dialogue est freiné et... Et en rentrant donc dans la vie étudiante, j'ai rencontré plusieurs personnes formidables qui allaient toutes à la messe étudiante. Je les ai suivies un jour par hasard et Et là, justement, j'ai trouvé ma place.
Vous leur avez posé toutes ces questions, du coup ?
Oui, j'ai posé des milliers de questions. Je pense que j'ai été assez saoulante, mais ça a servi la preuve.
Et comment, qu'est-ce que vous diriez ? Vous diriez qu'en fait, c'est leur réponse qui, à un moment, vous ont satisfait. Du coup, vous vous êtes dit, tiens, je vais faire partie de, entre guillemets, de leur église. Ou est-ce que vous avez été jusqu'à faire une rencontre plus personnelle avec Dieu ?
Un peu des deux. Donc, il y a les réponses qui, oui, dans un sens, m'ont satisfaite, mais ce n'est pas qu'intellectuel, c'est surtout... C'est quelque chose qui vient du cœur, une conversion, et surtout les homélies et les lectures, l'évangile qui m'ont beaucoup touchée. Et les rencontres, juste le fait de rencontrer des gens qui étaient, très aimants et spontanés, ça m'a permis de voir qu'il y avait une place, justement, pour moi dans ce milieu.
Alors, je ne vais pas vous poser exactement la même question au loge Ngoyé, ouais. Mais je vais faire écho peut-être à ce qu'a dit Monseigneur Legal tout à l'heure, en faisant lui-même écho au propos du pape François à l'occasion des dernières JMJ de Cracovie, où le pape vous a demandé, vous les jeunes, de ne pas être des retraités précoces, de jeter l'éponge avant d'avoir commencé la partie et de ne pas confondre le bonheur avec un canapé. Qu'est-ce que vous pensez de ce pape qui parle, de manière assez simple, directe et frontale, et qui vous invite à aller de l'avant, voire même, je retrouvais une citation préparant l'émission, il demande souvent aux jeunes d'être révolutionnaires. Qu'est-ce que vous comprenez de ça ? C'est quoi cette révolution, à votre avis, à laquelle vous appelez ?
Selon moi, en fait, le pape nous invite effectivement, comme vous avez dit, à ne pas rester passif en fait devant tout ce qu'il y a dans le monde. Étant donné que nous sommes jeunes, nous avons en fait le pouvoir de changer les choses, par notre volonté et aussi par la force en fait que le Seigneur arrive à mettre en nous. Donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment à ça que le pape nous invite. Parce que étant également jeune, c'est en général par les jeunes que beaucoup de choses se font. C'est par les jeunes qu'on arrive en fait à réaliser beaucoup de choses dans le monde. Donc le pape a bien fait en fait de s'adresser pour moi aux jeunes, parce que c'est vraiment par eux qu'on pourra en fait, selon moi, arriver à réaliser de grandes choses dans le monde.
Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le monde déjà, par exemple?
Déjà, je constate qu'en fait, il y a déjà pas mal de souffrances dans le monde, de famines dans le monde, de gens qui sont seuls. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'Église, avec toute cette fraternité en fait qu'on peut trouver dans l'Église, on peut avoir la force de se lancer dans le monde, d'aller réaliser de grandes actions fortes, de s'impliquer dans des projets, par exemple des projets humanitaires, ou de prendre du temps dans notre vie pour les donner au service des autres. Et c'est quelque chose que je trouve en fait assez important en tant que jeune.
Alors, on va revenir aux piliers de la paroisse étudiante. Il y en a beaucoup des piliers. J'imaginais, en préparant l'émission, qu'il y a probablement les 5 essentiels dont on entend souvent aujourd'hui parler, que sont donc la prière, la vie fraternelle, la formation, le service et l'évangélisation. C'est assez à la mode dans l'Église catholique, et pas que en France, de tourner autour de ces 5 fondamentaux. Mais la paroisse étudiante, semble-t-il, met le paquet d'abord sur l'accueil. Alors, ils vous ont désigné, Loge Ngoyé, pour nous parler de l'accueil. Ça veut dire quoi qu'on met le paquet à la paroisse étudiante sur l'accueil ? C'est-à-dire que...
Déjà pour moi, en tant qu'étudiant étranger, arrivant sur Toulouse...
Alors vous veniez d'où déjà ?
De Côte d'Ivoire. D'accord. J'avais déjà fait effectivement 3 ans à Montpellier avant, mais arrivé sur Toulouse, je ne connaissais pas grand monde. Donc il me fallait déjà me faire des amis et aussi trouver un moyen d'avancer dans ma foi, parce que je trouvais que ma foi avait beaucoup ralenti ces dernières années. Et donc j'ai eu l'occasion de fréquenter le CCU. Qui,
alors le CCU, pour ceux qui ne parlent pas chinois, c'est quoi?
C'est le Centre catholique universitaire de Rangueil. Et au CCU, en fait, si vous voulez, tous les jeudis soirs, on a une messe. Et après la messe, on a un repas qui permet en fait d'échanger, de rencontrer du monde. Et après ça, on a un enseignement où on a une soirée festive. Et moi, la première fois que je suis arrivé au CCU, c'était à l'occasion d'une soirée festive. Et quand je suis arrivé, je ne connaissais effectivement personne. Et j'ai vu ces visages souriants de partout, j'ai vu cette fraternité, cette convivialité. Je me suis dit, il faut que j'aille parler aux gens, il faut que je m'implique. C'est pas possible pour moi d'avoir été à Toulouse sans connaître ce groupe, en fait. Et je suis donc allé vers les autres, je suis allé leur parler. Et ils ont fait en fait de même. Et j'ai été vraiment surpris, j'ai été vraiment étonné de pouvoir en fait vivre cette ambiance de convivialité avec autant de gens au CCU, d'être si bien accueilli. On m'a même proposé d'intégrer une équipe, l'équipe de la sécurité pour le pèlerinage Exo 31, ce qui m'a permis également de...
Et vous diriez que ça avait quoi de différent avec ça aurait pu être l'accueil dans une équipe de rugby ou dans un parti politique? Qu'est-ce que ça avait de si particulier?
Pour moi, ce que ça avait de particulier, c'était surtout le fait que qu'on puisse avoir aussi des enseignements au CCU. Parce qu'au niveau du CCU, il y a des enseignements sur des thèmes qui sont vraiment très variés, que ce soit sur la foi, sur l'amour, sur l'éthique, le travail. Ça permet en fait pour moi de pousser cette foi. Et pour moi, si vous voulez, c'est un peu comme un package en fait. Ça permet déjà d'avoir la messe après une grosse journée de travail, on rentre, on est fatigué. Là, on va, on a la messe, on peut communier. Après la messe, on a un repas tous ensemble, ce qui est vraiment magnifique, ce qui nous permet de nous détendre, de connaître de nouvelles personnes. Et après ça, on a un enseignement qui tombe vraiment pile poil, qui permet en fait d'avoir aussi l'avis de l'Église sur différents points de la vie. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément formé et je pense que ça a contribué énormément à la personne que je suis aujourd'hui encore.
Qu'est-ce que vous diriez d'autre de l'accueil au sein de cette paroisse étudiante? Est-ce qu'il y a d'autres aspects comme ça, plus généraux, que vous pouvez présenter de la paroisse étudiante qui disent l'intention profonde de cette paroisse d'essayer d'être très attentif à l'accueil de tous les étudiants? Est-ce qu'il y a d'autres réalités hormis le CCU de Rangueil?
Hormis le CCU, il y a d'autres pôles d'autres groupes, si vous voulez, qui pour moi sont aussi font l'effort en fait d'accueillir les étudiants, les nouveaux étudiants, que ce soit au niveau des aumôneries ou même au niveau des fraternités en fait, parce que il y a effectivement, comme vous le savez, deux fraternités à Toulouse. Moi, j'ai été membre d'une fraternité au cours de l'année écoulée et dans cette fraternité, on était en fait, si vous voulez, assez proche du CCU parce que tous les jeudis, nous avions des missions au niveau du CCU. Et c'est plus sur l'aspect CCU que je peux parler plutôt que sur les autres aspects. En fait.
Alors, je vais citer pour vous aider. Donc, de fait, on sent bien à l'occasion de ces grands événements que sont le festival Open Church, donc, qui se clôt ce soir et qui est la messe de rentrée des étudiants. Mm-hmm. L'importance de l'accueil, mais il y a aussi de multiples propositions comme des colocations, comme des fraternités où les jeunes sont plus engagés. Bref, on met le paquet sur l'accueil parce qu'on considère que c'est essentiel. Monseigneur Legal n'aurait pas dit le contraire, puisque dans un monastère bénédictin, une des règles, c'est d'accueillir l'étranger comme si c'était le Christ lui-même. L'autre aspect de cette paroisse, c'est donc le service, puisque assez rapidement, on vous propose un certain nombre de services. Ce soir, il y a une soixantaine de pôles, de mouvements, de communautés qui sont représentés. Et entre autres, donc, il y a un service qui est le service Saint-Vincent de Paul Jeune. Parlez-nous un petit peu, Baptiste Michon, de ce service. Voilà, ça, c'est dans la droite ligne des nombreuses injonctions du pape d'essayer de servir son prochain. Enfin, voilà, non pas seulement d'essayer, mais de se mettre au service de son prochain. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette société Saint-Vincent de Paul Jeune?
Alors finalement, notre service consiste aussi à l'accueil, c'est-à-dire que nous voulons accueillir les gens là où ils se trouvent. Donc avec la société Saint-Vincent de Paul, nous partons tous les lundis et mercredis soirs pour aller trouver les gens où ils se trouvent. Nous allons voir les frères de la rue, nos frères de la rue, donc c'est comme ça qu'on appelle les SDF. Et le but...
Vous êtes combien à aller comme ça dans la rue?
On peut monter jusqu'à 50-60 personnes par soir. Donc après, on se divise par petits groupes de 5-6. Et le but, c'est d'aller passer du temps avec eux.
C'est plusieurs fois par semaine ou...
Oui, le lundi,
pardon, le lundi
et le mercredi.
D'accord.
Le mardi, il y a aussi l'Ordre de Malte qui a la même mission que nous. Alors, ce qui change avec des associations classiques, c'est que notre but premier n'est pas de leur fournir de l'alimentation, des vêtements, même si on peut, on le fait, bien sûr. Mais notre but premier est d'abord de prendre du temps avec eux, de les écouter, de leur parler, de vraiment recréer un lien social qu'ils ont souvent perdu. Parce que c'est sûr que des gens leur donnent de l'argent, les gens leur donnent des biens matériels, mais très très peu de personnes leur offrent du temps sur leur journée, très très peu de temps leur offrent une vraie présence, une vraie écoute. Et c'est le but de notre présence, de vraiment les écouter là où ils sont et qui ils sont.
Vous aviez l'habitude de faire déjà ça avant ou c'est à la faveur de votre arrivée dans la paroisse étudiante que vous êtes mis dans ce service?
Alors je n'avais jamais fait ça avant, j'avais eu l'idée. Mais c'est sûr que quand on est seul, on n'a pas forcément la force, pas forcément la volonté de le faire. Alors que là, le fait d'avoir un groupe, ça nous permet dans un premier temps d'y participer activement, et dans un deuxième temps de vraiment s'engager, d'être acteur de ce groupe, de le faire évoluer avec les idées qu'on a pu avoir, et de vraiment y aller à fond et essayer de toucher un maximum de personnes de la meilleure des façons possibles.
Est-ce que vous pouvez nous raconter par exemple une personne sans domicile fixe que vous avez appris à connaître et je sais pas avec qui vous avez pu nouer une relation peut-être plus approfondie? Est-ce que vous vient en tête un visage ou une histoire?
En fait, il y a des dizaines de visages qui me viennent maintenant, que ce soit des personnes qui ont réussi à se sortir de la rue, des personnes qui y sont encore. Il y a vraiment une multitude de personnes qui ont chacun leur caractère, qui ont chacun leur volonté, chacune leur histoire. Et donc ce qui est beau, c'est justement de connaître chaque personne intérieurement, d'aller les voir chaque semaine, de les croiser même au hasard d'une balade dans la rue à Toulouse en semaine, en dehors des maraudes. C'est important de connaître chaque personne dans son histoire et d'aller la chercher là où elle se trouve.
Est-ce qu'il y a, j'ai cru comprendre qu'au sein des sociétés Saint-Vincent-de-Paul aussi, Saint-Vincent-de-Paul jeune, ça vaut le coup de le préciser, il y avait une action conjointe entre chrétiens et musulmans. Dites-nous un mot de ça.
Et ben, ça fait maintenant 3 ans que nous maraudons avec étudiants musulmans de France. Donc, ils sont une dizaine ou une vingtaine certains soirs. Et donc, le but est vraiment de mélanger nos deux assos afin de cheminer ensemble et de créer de vraies amitiés, donc au contact des SDF, mais aussi entre nous. Et au bout de 3 ans, on voit vraiment que les deux groupes se fondent totalement l'un dans l'autre, tout en respectant chacune des particularités. C'est-à-dire qu'avant chaque maraude avec Saint-Vincent de Paul, nous avons une prière. À la fin, de même, car nous trouvons que c'est important de aussi fonder notre action dans Jésus-Christ et dans l'Église catholique. Eux, de même, font ça de leur côté. Et pour la maraude, nous cheminons ensemble et nous allons voir les SDF ensemble. Ça les touche parfois beaucoup de voir que même les étudiants peuvent arriver à s'entendre entre eux, entre musulmans voilés et chrétiens, on va dire un peu de cliché, et d'arriver à faire vraiment une action bonne ensemble.
Voilà, donc de multiples choses au sein de la paroisse étudiante. On a parlé un peu avec Léa Bernard de toute la vie sacramentelle. Évidemment, il y a de multiples propositions pour ceux qui n'auraient pas pu venir ce soir. Il y a évidemment la messe tous les dimanches soirs qui, je crois, est à Notre-Dame de la Dorade, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
Chaque dimanche soir, à quelle heure déjà, rappelez-le?
19h.
Mais de multiples autres occasions de se réjouir autour de Dieu. Un certain nombre de grands événements comme Exode 21, c'est ça?
31,
oui, pardon, 31. Comme le département, qui a lieu le premier week-end de l'Avent, en général.
C'est le week-end des rameaux.
C'est ça. Hein, la dernière fois, vous êtes allé marcher vers Rocamadour, c'est
oui.
ça ? Voilà, enfin, de multiples occasions de rencontrer et de grandir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va continuer notre balade au sein de la paroisse étudiante.
Vers le ciel, les bras en croix, je pose toutes les questions qui cherchent des réponses. Si ma foi me pousse au-delà de moi, pourquoi y mettre une croix? On prie des ambitions, on prie dans l'émotion, on prie tous parfois. Parfois je me mets à pleurer, parfois je commence à prier. Parfois, je ne veux plus y croire. Parfois, c'est plus fort que moi. Tous ces mots, toutes ces joies, toutes ces larmes qui font ma foi, ma vie. Et pourtant, un jour ou l'autre, on part plus loin que loin, sans savoir s'il y en a d'autres qui nous attendent sur le chemin. On prie pour les siens, on prie pour le bien, on prie tous parfois. Parfois je me mets à pleurer, parfois je commence à prier. Parfois je ne veux plus y croire, parfois c'est plus fort que moi. Toutes ces larmes qui font ma foi, ma vie, ma vie, pour crier mes peines et mes joies. Parfois je prie les bras en croix, parfois, oh, parfois. Parfois je me mets à pleurer, parfois je commence à prier, parfois je ne veux plus y croire, parfois c'est plus fort que moi. Tous ces mots, toutes ces joies, toutes ces larmes qui font ma foi. Parfois je me mets à pleurer, parfois je commence à prier, parfois je ne veux plus y croire, parfois c'est plus fort que moi. Tous ces mots, soir. Toutes ces larmes qui font ma voix, ma vie.
Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église, toujours en direct de la cathédrale, en direct ou presque, puisque nous sommes le soir, alors que vous nous écouterez le matin exceptionnellement. C'est un faux direct de la cathédrale Saint-Étienne, donc à Toulouse, pour parler donc de cette paroisse XXL qui est la paroisse étudiante, qui, je le rappelle, concerne donc toute la pastorale étudiante de Toulouse. Et comme des étudiants de Toulousains, il en vient non seulement de toute la France, parfois du monde, mais de toute la province, disait-on, la grande province apostolique de Toulouse. Bref, une paroisse qui embrasse très large. Autour du plateau, nous aurons rejoint Paul Van Van, Clotilde Marijon et Paul Roland Gosselin. C'est ça, Gosselin? Oui. Bonjour à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Je voulais aussi vous reposer un peu la même question qu'à vos copains ou qu'à vos frères, puisqu'on est dans l'église, on peut dire ça, sur la raison de votre présence ce soir. Est-ce que l'un ou l'autre veut en dire un mot? Pensez à tous ceux qui peut-être n'ont pas la foi. Qu'est-ce que vous leur diriez? On va commencer avec vous, tiens, Paul Roland Gosselin. Pourquoi vous êtes là ce soir?
Alors moi je suis là.
Pas l'émission de radio, mais pourquoi?
Oui, j'imagine. Moi j'ai été envoyé l'an dernier, enfin cette année, en début d'année, dans cette paroisse étudiante de Toulouse, où j'ai passé une année quand j'étais étudiant il y a 6 ans, avant de rentrer au séminaire. Et c'est pour moi une grande joie, une grâce particulière de pouvoir renouer avec ce monde étudiant que j'ai d'une certaine manière un peu laissé. Il y a 6 ans.
C'est-à-dire, vous êtes c'est la fameuse année de césure, c'est ça?
Non, c'était mon année avant le séminaire, où je faisais des études lambda de droit.
D'accord,
à côté.
Mais vous dites que vous
et
êtes
j'étais
revenu.
J'étais donc à la paroisse étudiante comme étudiant, et où j'ai beaucoup reçu. Et c'est vrai que maintenant, j'ai été envoyé, parce que tous les séminaristes nous sommes envoyés pendant nos années de séminaire, le week-end, dans une paroisse d'insertion.
D'accord.
Et moi, j'ai été envoyé donc dans cette paroisse. Ce qui est qui a une paroisse très très particulière. Je pense qu'on en a parlé longuement tout au long de.
Mais
de
vous
n'avez
pas été. Mais vous êtes là aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un.
C'est
davantage le sens de ma question que l'historique personnel. C'est dites-nous un mot peut-être de cette personne. Donc vous êtes séminariste.
Oui. Alors oui, je suis séminariste depuis 5 ans maintenant. Et c'est vrai que moi, je me suis engagé à la suite du Christ dans le sacerdoce, dans cette voie qui mène au sacerdoce, si Dieu le veut. C'est parce que oui, j'ai rencontré le Christ. Bon, je suis né dans une famille catholique, j'ai grandi dedans. Mais pour autant que je me souvienne, j'ai toujours cru en Dieu. Pour autant, il y a eu un moment où il y a eu une rencontre très personnelle avec lui, avec le Seigneur, où j'ai senti un appel très fort de tout lui donner. De tout lui donner dans le sacerdoce, avec un grand désir de don, notamment de donner aux hommes l'amour que j'ai pu recevoir moi-même, notamment dans ma vie de prière, et aussi par tous mes frères que j'ai pu rencontrer dans divers lieux, et notamment à la paroisse étudiante.
Alors, donc, je ne vais pas vous poser la même question à vous deux, hein, parce que vous êtes pas, non pas parce que vous n'êtes pas rentré au séminaire, mais parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps et on a quand même 2-3 encore choses à évoquer. Je voulais qu'on parle un petit peu du synode des jeunes. On en a parlé à l'occasion de la première partie, rapidement, avec Mgr Le Gall. Donc, en octobre prochain, en 2018, aura lieu à Rome un synode, qui est un synode pour les jeunes. Il y a eu le synode sur la famille, qui a donné lieu à l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, qui a beaucoup fait parler d'elle. On espère que ce synode pour les jeunes donnera lieu à un texte qui fera couler autant d'encre. Ce synode pour les jeunes, donc je le disais, le pape vous a adressé un message et il y a déjà eu une mobilisation dans les diocèses, un peu partout dans le monde, pour essayer de faire remonter à Rome un petit peu comme des travaux préparatoires. Est-ce que vous pouvez nous dire ce à quoi vous avez participé, peut-être sur le diocèse de Toulouse? On vous écoute, Clotilde Marijon.
Oui, tout à fait. Donc à la paroisse étudiante, nous avons eu plusieurs réunions de préparation où on s'est répartis en groupes d'étudiants et on a débattu sur différents thèmes. On a réfléchi chacun et en groupe à ce qu'on avait envie de dire au pape et ce sur quoi on avait voulu qu'il nous envoie davantage. Et à titre personnel, avec d'autres étudiants, nous avons aussi été dans la rue à la rencontre des jeunes qui ne sont pas catholiques parce que le pape s'intéresse aussi à leur avis.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, vous avez eu un questionnaire?
On avait des questionnaires, oui. Et on a été à la rencontre de jeunes non catholiques, non croyants dans la rue.
Qu'est-ce qu'il y avait comme type de questions?
Que pensez-vous de l'Église? Que pensez-vous de la religion? Que pensez-vous des gens qui témoignent de leur foi? Si vous aviez un message à adresser au pape, quel serait-il? Et on a recensé toutes ces données.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les réponses que vous avez eues?
Alors,
à gros traits, ou peut-être les avez-vous pas encore dépiautées?
Les grandes questions sur le mariage, la famille. Les jeunes non catholiques ont soif d'en savoir plus sur la famille, le mariage pour tous, les grandes questions de respect de la vie, de la dignité humaine.
Quelle image ont-ils en général de l'Église?
Ils ne comprennent pas forcément sa position, mais ils ont cette soif de la comprendre.
Ses positions sociétales, vous voulez dire?
La position de l'Église sur les grandes questions.
D'accord. Et sur Dieu, est-ce que vous leur avez demandé s'ils cherchent Dieu, s'ils cherchent un sens à leur vie? Qu'est-ce qu'ils vous répondaient à cette question, peut-être?
Chercher le sens à leur vie, oui, mais pas forcément à travers Dieu.
Vous aussi, Paul Roland Gosselin, vous avez participé peut-être à ces travaux préparatoires du synode. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire?
C'est vrai qu'on a essayé au niveau diocésain et puis plus largement au niveau de l'Église universelle ou même du monde entier.
Alors parlez de votre expérience plutôt.
Oui, on a essayé de ratisser un maximum de réponses et c'est vrai que moi j'ai pu du coup être en participant parce que le père Arnaud Franck m'avait demandé d'y participer au groupe du synode des jeunes de diocèse. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir dépiauter en fait toutes les questions parce que l'objectif de ce groupe c'était de recenser un maximum de questions et surtout de réponses à des jeunes très variés, qu'ils soient chrétiens ou non, catholiques, pratiquants ou pas pratiquants, athées, musulmans, etc.
Alors qu'est-ce que vous pourriez dire en complément de ce qu'a dit Clotilde peut-être sur les résultats?
Et bien justement que moi donc en dépouillant j'étais assez étonné de voir qu'il y avait une très grande diversité de réponses, notamment en fonction de la provenance de ces gens-là, avec quand même une soif je pense de spirituel au niveau des jeunes, une soif de d'approfondir toute la dimension spirituelle de l'homme, pas forcément donc dans une foi ecclésiale avec des dogmes etc. Pour les catholiques pratiquants ça pose pas de problème, pour les autres forcément il y a plus de questions, mais ils partagent au moins un certain nombre de valeurs avec nous. Ils sont plutôt d'accord, plutôt ouverts.
Des jeunes qui sont donc à l'image des Français, c'est un peu ce qui ressort. On avait fait une émission au printemps dernier sur la nouvelle soif spirituelle des Français à partir d'une grande enquête sociologique qui a été menée dans toute la France et qui montre que les Français, en fait, loin d'être une nation profondément athée, sont des gens en fait, qui cherchent, mais une spiritualité qui s'exprime de manière, on va dire, souvent hors champ ecclésial. On va parler un petit peu de vous, il ne nous reste pas énormément de temps, Paul Van Van, parce que on m'a dit ce garçon, il est l'image de ces jeunes qui sont appelés à trouver leur place dans l'Église. En gros, le projet du pape, c'est pas de mettre la pagaille dans l'Église, mais de faire en sorte que les jeunes prennent plus de place et qu'ils aient un peu plus la parole. On espère qu'avec la liberté du pape François, les résultats seront probants. En tout cas, vous seriez comme un fruit anticipé en fait de ce synode. Alors racontez-nous votre chemin et pourquoi est-ce qu'on vous a présenté comme tel.
Effectivement. Alors, ce qui est bien avec la paroisse étudiante de Toulouse, c'est qu'elle nous permet vraiment de concrétiser nos projets. Moi j'avais comme moyen la musique et je voulais le mettre à profit à d'autres étudiants et surtout quand
vous êtes vous-même musicien, c'est ça?
Oui, j'ai fait de la musique pendant mon enfance, tout le collège et au lycée, au conservatoire de Toulouse.
Quel instrument?
Donc j'ai fait du piano pendant 11 ans et aujourd'hui je mets à profit mes connaissances musicales aux étudiants de la paroisse mais aussi aux étudiants qui ne sont pas forcément cathos. Et en cela...
C'est-à-dire, alors, comment ça s'est fait? C'est-à-dire qu'au début, vous êtes arrivé, vous avez dit tout de suite, moi, je voudrais proposer quelque chose et on vous a déroulé le tapis rouge ou c'est...
C'est un peu comme ça, oui. Je suis arrivé à la fin de la messe, d'une des messes d'étudiantes un dimanche soir. Le prêtre fait passer une annonce disant qu'il cherchait un chef de chœur pour la chorale paroissiale. Et j'ai tout de suite répondu oui. Alors, sans vraiment... chercher pourquoi, comment. J'ai dit oui, je suis allé, j'ai foncé. Ça a été un peu difficile, mais ça a été une très belle découverte, une très belle expérience. Et ce qui m'a mené à vraiment développer ce groupe de cœur. Et aujourd'hui, avec deux autres amis du conservatoire, nous avons développé quatre chœurs et un orchestre au sein de la paroisse étudiante. Et nous avons vraiment pour
but... Quatre chœurs de combien de personnes?
Alors, quatre chœurs, ça dépend des effectifs. Nous avons un chœur mixte qui ont 40 chanteurs, un chœur de femmes avec une dizaine de chanteurs, un chœur d'hommes, une dizaine, et un chœur de chambre, une dizaine aussi.
Donc vous êtes une des révélations de la paroisse étudiante. Alors, c'est ça.
Voilà. Enfin, faut pas trop exagérer, mais bon,
en tout cas, est-ce que vous avez le sentiment d'une certaine manière que la paroisse étudiante vous a aidé à profondément trouver votre place?
Largement, oui, parce que ça, je n'aurais pas pu le faire. Par exemple, il y a un campus universitaire. La paroisse m'a donné les moyens, les outils. Je suis allé, j'ai foncé, j'ai pas trop réfléchi. Et maintenant, avec tout ça, on essaie vraiment d'aller vers les étudiants qui non seulement sont cathos, mais en plus pas du tout catholiques. Et en cela, nous répondons vraiment à l'adage que dit le pape François, c'est que nous allons vraiment vers les périphéries, chercher ces étudiants-là, présenter nos activités musicales au sein de la paroisse et leur montrer qu'en fait, on est une paroisse étudiante dynamique et que nous sommes pas et que nous répondons.
Vous n'êtes pas vieux, vous n'êtes pas des retraités avant l'heure. Ça va, c'est une bonne nouvelle. On va finir avec vous, Clotilde Marijon. Vous donc, vous avez décidé de vous engager au sein d'une fraternité étudiante à Rangueil.
Oui.
On en a parlé un petit peu. Donc les fraternités, c'est comme des pôles où les étudiants sont particulièrement engagés au service de la pastorale étudiante. Dites-nous un mot de cette volonté de vous engager.
En fait, je suis assez émue parce qu'il y a un an, je débarquais à la messe de rentrée des étudiants sans trop savoir à quoi m'attendre et sans plus croire vraiment en Dieu. J'y entendais parler des JMJ, sans savoir ce que je faisais, je m'inscrivais aux JMJ. Et là, dans les rencontres, j'ai découvert Dieu et ça a été une occasion vraiment de conversion. J'ai été confirmée l'année suivante et en fait, pour moi, la fraternité, c'était la suite logique. J'ai découvert la joie du service, en fait, et c'était pour approfondir ce service-là. En tant que frateuse, du coup, j'ai une mission. Nous avons une mission d'évangélisation des étudiants. Alors, j'ai particulièrement à cœur, justement, d'aller à la rencontre de tous ces étudiants qui cherchent Dieu, qui cherchent le sens de leur vie et qui se posent toutes ces questions et de, voilà, par mon témoignage, peut-être de leur montrer la joie de revenir vers Dieu qui nous attend.
C'était il y a 2 ans.
Alors, les JMJ, c'était l'été dernier, oui. Et la messe, c'était il y a 1 an.
Donc il y a 1 an, vous êtes venu à la messe.
Oui.
Et aujourd'hui, vous tenez ce discours-là.
C'est ça.
Et l'année dernière, vous aviez des doutes sur l'existence de Dieu.
Pendant des années, j'ai eu une rupture vraiment avec la foi. Entre 13 ans et 21 ans, je n'ai pas eu de messe, ni d'éducation religieuse ou quoi que ce soit, parce que je ne voulais plus croire. En fait, la vie était un peu compliquée. Il y a eu des hauts et des bas. Et dans les moments difficiles, je n'ai pas eu le réflexe de me tourner vers Dieu. Je lui ai même plutôt tourné le dos. Et vraiment, les JMJ et justement le message du pape qui m'a le plus touchée, c'est « Levez-vous, secouez-vous et ne confondez pas le bonheur avec un canapé ». Et c'est ça que je garde dans mon cœur tout le temps et c'est ça qui me pousse autant à vouloir servir.
Si on doit finir d'un mot, qu'est-ce qui a changé dans votre vie entre il y a 1 an et aujourd'hui? Vous diriez quoi? Vous avez découvert quoi?
J'ai la joie du service, des relations plus vraies avec les gens. Une soif de rencontre, une soif de plus en fait, soif d'autre chose, le slogan de notre paroisse.
Incroyable, décidément, ils vous ont bien choisi pour cette émission. Merci beaucoup à tous d'être venus au micro de Vivante Église et merci à Francky Guéret qui a réalisé cette émission et qui a fait des heures supplémentaires, tout ça par amour de la radio, même peut-être, qui sait, de la paroisse étudiante de Toulouse. Cette émission a été donc réalisée par Francky Guéret, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.